Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Abdoul Kader Konaté.
À la une de l'actualité, drame de Karma, les personnes tuées seront inhumées ce jeudi dans le village. Le Conseil constitutionnel a rejeté lundi dernier un recours de l'ancien ministre Vincent Dabilgou qui demandait à la juridiction de déclarer le tribunal correctionnel du pôle économique et financier du TGI Ouaga 1 incompétent pour juger l'affaire dans laquelle il est accusé. Le Tour cycliste international du Bénin débute le 2 mai prochain. Le Burkina Faso y sera avec une équipe de 5 coureurs. Zoom sur l'état d'esprit du groupe et l'ambiance au sein des étalons cyclistes dans ce journal. Moins de 48 heures avant la Semaine nationale de la culture SNC à Bobo-Dioulasso, le comité national d'organisation se dit prêt pour la tenue de cette biennale 2023. Fidel Tamini, président du comité d'organisation, est l'invité de ce journal. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Une semaine après les tueries de Karma, localité située à une quinzaine de kilomètres de Waiguia, ayant fait plus d'une centaine de morts selon les ressortissants et rescapés et une soixantaine selon le premier bilan dressé par le procureur de Waiguia, les personnes tuées seront inhumées ce jeudi dans le village, confirme un ressortissant de la localité à Omega Media. Plus de détails avec Jean-Paul Ouédraogo.
Selon les ressortissants et rescapés de l'attaque de Karma, qui a coûté la vie à une soixantaine de personnes, selon le premier bilan dressé par le procureur de Waiguia, les personnes tuées seront inhumées ce jeudi dans le village, ont confirmé mercredi soir à Omega des ressortissants. « Nous avons eu l'autorisation d'aller inhumer ce jour nos corps », a déclaré un ressortissant. Depuis le massacre pour la première fois, les ressortissants et rescapés ont pu se rendre le mardi 25 avril à Karma après une tentative infructueuse le 24 avril. Selon leur communiqué, l'armée avait bloqué la route au niveau de l'axe Waiguia-Yuba, interdisant les usagers de rejoindre Karma. Les ressortissants ont expliqué dans leur communiqué que tout a commencé dans la matinée du jeudi, précisément autour de 7h30, quand le village de Karma était encerclé par des hommes armés venus en grand nombre et habillés en tenue militaire burkinabé. Ils étaient tous sur des motos, dans des véhicules pick-up et blindés, et on pouvait également apercevoir un char de combat, avait précisé le communiqué. Les ressortissants de Karma avaient aussi déploré qu'à part le communiqué du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Waiguia, annonçant l'ouverture d'une enquête sur les événements, aucune autre réaction de la part de l'autorité, notamment en termes d'accompagnement, n'a été enregistrée. Ils ont exigé toute la lumière autour de cette affaire. Après l'attaque le jeudi 20 avril, plusieurs chiffres ont circulé via les réseaux sociaux, allant jusqu'à 150 morts. Comme première réaction officielle, le procureur du Faso, près le tribunal de grande instance de Waiguia, a évoqué une soixantaine de morts.
Justement, par rapport aux tueries de Karma, Save the Children appelle à porter une attention particulière dans les investigations. L'ONG de défense des droits de l'enfant, Save the Children, a interpellé hier mercredi dans un communiqué à porter une attention particulière au cas de tuerie d'enfants à Karma, département de Barga, province du Yatenga. Dans un contexte sécuritaire difficile, l'amicale des anciens étudiants de l'École nationale des ingénieurs de Bamako et le ministère en charge de l'éducation nationale veulent apporter leur part contributive à l'effort de guerre. En effet, les deux entités ont remis mardi dernier deux chèques d'une valeur de plus de 25 millions au ministre en charge de l'économie. Marina Ouédraogo nous en dit plus.
Le premier chèque d'une valeur de 20 millions de francs CFA est un don du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Un acte de solidarité que les acteurs de la communauté éducative ont initié depuis 2019. Joseph André Ouédraogo, ministre de l'Éducation nationale et l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales.
Je suis venu aujourd'hui au ministère des Finances pour remettre à mon collègue la contribution de mon département au titre de l'effort de guerre. Donc j'ai remis à l'occasion une somme de 20 millions. Ce n'est pas une petite somme. C'est pour vous dire le sacrifice consenti par tous les acteurs de la communauté éducative pour participer à ce combat. Ce combat pour libérer notre pays des griffes des terroristes. Donc beaucoup d'enseignants, beaucoup d'acteurs de la communauté éducative se sont sentis concernés par l'appel, n'est-ce pas, de plusieurs autorités à prendre part à ce combat.
Le second chèque est de 5 850 000 francs, issu de cotisations de l'Amicale des anciens étudiants de l'École nationale des ingénieurs de Bamako, représentée par son président Martin Diabri, pour soutenir l'effort de guerre.
Les ingénieurs anciens étudiants de l'école de Bamako sont réunis en amical à des buts sociaux, mais œuvrent aussi, n'oublient pas leur sens, leur devoir patriotique qui les interpelle lorsque la nation en a besoin. C'est en cela que le geste de cet après-midi se justifie.
Un peu plus de 100 jours après sa mise en place, il ressort de réels motifs de satisfaction au regard de l'évolution des encaissements, des souscriptions et des annonces déjà enregistrées, nous a témoigné le ministre Aboubakar Nakanabou. En effet, à la date du 19 avril 2023, le compte dédié au fonds de soutien patriotique enregistre des encaissements d'un montant de plus de 9 934 millions.
Je vous l'annonçais en titre, le Conseil constitutionnel a rejeté lundi dernier un recours de l'ancien ministre Vincent Dabilgou qui demandait à la juridiction de déclarer le tribunal correctionnel du pôle économique et financier du tribunal de grande instance Ouaga 1 incompétent pour juger l'affaire dans laquelle il est accusé. Les avocats de l'ancien ministre en charge des transports de Rokaboré avaient remis en cause la constitutionnalité de la procédure. C'est ainsi que la plus haute juridiction du pays, rendant son verdict ce 24 avril, a estimé que le recours est irrecevable. Plus de détails avec Sabuna Ouedraogo.
À l'audience du procès de Vincent Dabilgou le 3 avril dernier, les avocats de l'ancien ministre en charge des transports de Rokaboré avaient remis en cause la constitutionnalité de la procédure, demandant une suspension afin de prendre l'avis du Conseil constitutionnel avant toute éventuelle poursuite. Ils exhortaient le tribunal correctionnel de se dessaisir du dossier en faveur de la Haute Cour de justice, habilitée selon eux à juger les anciens ministres. À leur demande, l'audience a été suspendue. Rendant son verdict ce 24 avril, la plus haute juridiction du pays a estimé que le recours est irrecevable. Selon le Conseil constitutionnel, le requérant doit prouver que l'action est pendante devant une juridiction, que l'exception d'inconstitutionnalité a été soulevée devant elle et qu'un sursis à statuer a été prononcé. Cela n'était pas le cas pour Vincent Dabilgou et ses avocats à la date du 24 mars où le recours a été enregistré au greffe du Conseil à en croire la décision rendue. Il ne ressort nulle part qu'une exception d'inconstitutionnalité a été soulevée par le requérant devant le tribunal correctionnel du pôle ECOFI du tribunal de grande instance Ouaga 1. Indique la décision qui précise qu'il s'agit plutôt d'une exception d'incompétence qui a été évoquée devant le tribunal de grande instance de Ouaga 1. L'audience devrait reprendre devant le tribunal correctionnel le 4 mai prochain. L'ancien ministre et président du Nouveau Temps pour la démocratie NTD, Vincent Dabilgou, est poursuivi pour détournement des deniers publics, financement occulte de partis politiques et blanchiment de capitaux. Il est en détention depuis le 10 mars 2023. Ses avocats dénoncent une détention arbitraire et demandent toujours sa libération. Toutes les différentes demandes de liberté provisoire ont été rejetées.
Tout autre chose dans ce journal, les patrons d'Afrique se retrouveront les 13 et 14 juillet prochains à Ouagadougou pour la deuxième édition de la RIPAB, entendez par là, rencontre des patrons d'Afrique au Burkina. Un comité scientifique a été installé à cet effet pour assurer l'organisation de cet événement qui connaîtra la participation de plusieurs personnalités et invités d'honneur provenant du milieu des affaires et politiques à l'échelle nationale, sous-régionale et internationale. Les détails avec Moumouni Tamboura.
C'est un comité scientifique composé de 8 membres. Il détermine les grands axes de la réflexion de la rencontre des patrons d'Afrique au Burkina, constitue les jurys pour les différents trophées, d'organiser le programme et assurer l'évaluation de la RIPAB. L'objectif général de cette rencontre, selon le vice-président du patronat, Seydou Diakité, est de créer un cadre d'échange entre les acteurs du monde des affaires et des décideurs politiques administratifs, afin de trouver des solutions aux préoccupations du secteur privé pour booster la contribution de ce secteur au développement socio-économique et à l'effort de guerre.
Je pense que c'est important dans un environnement de crise généralisée, parce qu'au-delà de la crise sécuritaire, il y a la crise économique. Il faut qu'en ensemble que nous soyons en communion dans la réflexion, porter haut le flambeau de l'économie de nos pays et permettre à nos armées aujourd'hui de pouvoir dégager les moyens et les ressources nécessaires pour défendre notre pays.
La REPAP 2023 est particulière selon le vice-président du Conseil national du patronat burkinabé. Elle accueillera l'Assemblée générale de la Fédération des patronats d'Afrique de l'Ouest qui est un carré d'échange entre les patrons de la CEDEAO sur les défis du marché du travail, de l'emploi et du développement économique.
Nous avons aujourd'hui le devoir de montrer que notre pays marche, qui n'était pas mauvaise. On avait un taux de croissance de 6,5%. On avait pour la première fois une balance commerciale qui était excédentaire. Mais tout ça, c'est grâce aux entreprises qui contribuent à hauteur de 80% dans la formation du produit intérieur brut. Si aujourd'hui nous restons apeurés, est-ce que nous allons accompagner l'économie du pays? Est-ce que nous allons continuer à assurer les emplois? Je pense que non. Il faut donc que nous continuions à montrer aux yeux de l'opinion nationale et internationale que nous travaillons chez nous, que nous nous battons aujourd'hui pour bouter hors de du territoire les ennemis qui nous empêchent aujourd'hui d'avancer.
Cette édition, qui s'étalera du 13 au 14 juillet 2023, sous le thème « Intelligence artificielle, enjeux, défis et opportunités pour les économies des pays », sera une occasion pour les patrons d'Afrique de présenter les opportunités d'investissement et les potentialités du continent pour promouvoir les échanges intercommunautaires. L'édition 2021 a connu 650 participants de 6 pays.
Le sociologue Sidi Bari a soutenu hier, mercredi 26 avril, à l'Université Joseph Kizerbo, sa thèse de doctorat unique en sociologie avec pour thème « Crise sécuritaire au Burkina Faso, analyse des déterminants, défis et perspectives dans la province du Soum ». Si ses travaux de recherche se sont basés dans la province du Soum, c'est précisément parce que tout a commencé dans le chef-lieu à Djibo, dans cette partie du Burkina où l'insécurité a commencé avant de se généraliser à travers le pays. Dans sa thèse, il soulève les causes du terrorisme, mais aussi propose des pistes de solutions. Pierre Badolo pour le compte-rendu.
Le Soum est considéré comme l'épicentre de la crise sécuritaire. Tout est parti de là-bas. La preuve en est...
La crise sécuritaire est la question problématique qui retient l'attention de tous les Burkinabés et le monde universitaire n'est pas en reste du phénomène. D'où est partie la crise et quels en sont ses enjeux? Et les sociologues du pays aussi s'interrogent afin d'apporter des réponses pouvant contribuer à éradiquer ce fléau qui met à mal la cohésion sociale des Burkinabés. Après des années de recherche sur le phénomène terroriste au Burkina, l'impétrant Sidik Bari soulève des enjeux religieux et sociaux, mais aussi économique et surtout politique.
Le ressort de mon travail est que la crise sécuritaire dans le Soum est alimentée par plusieurs facteurs. Le Soum est traversé par une lutte d'hégémonie entre plusieurs courants religieux, l'un modéré, l'autre radical, porté par le prêcheur Malam Diko. Et également, la crise est née d'un sentiment de frustration de la part d'une couche de la population qui estimait qu'elle était un peu oubliée par le développement. L'État n'a pas suffisamment investi dans la zone en réalisant notamment des grands travaux en matière d'infrastructures routières, éducatives, sanitaires.
Désormais, docteur en sociologie avec la mention très honorable qui lui a été attribuée après délibération du jury pour son courage sur ce thème qui est plus que d'actualité. Ali Sangaré, président du jury.
Mention très honorable, c'est la mention la plus élevée au niveau du Burkina dans les universités. C'est au regard donc de la qualité, de l'immensité du travail abattu, au regard donc de l'intérêt social, l'intérêt national et je dirais même international. L'impétrant a mouillé le maillot, comme on dit, à travers donc des recherches empiriques.
La thèse du doctorat unique de sociologie de Sidik Bari retient la satisfaction de ses encadreurs en ce sens qu'elle peut servir de catalyseur aux autorités parmi les recherches de solutions dans la résolution de la crise sécuritaire. Professeur Al-Kassou Maïga, directeur des thèses.
Je suis très heureux qu'on ait pu travailler sur une thématique qui est d'actualité et qui nous engage nous tous aujourd'hui parce que c'est sur des questions sécuritaires qui plus dans la province du Soudan. Et quand on sait qu'au début de cette province-là que sont parties les difficultés liées à la sécurité, donc ça veut dire qu'il est allé à la racine pour rechercher les raisons profondes qui expliquent cet état de fait. Les pistes qu'il a pu dégager sont des pistes qui peuvent permettre aux preneurs de décision.
Des conseils pour l'amélioration de sa thèse sur la crise sécuritaire née à Djibo, chef-lieu de la province du Soum, ont été prodigués au tout nouveau docteur en sociologie Sidik Bari pour plus améliorer ce qu'il a commencé afin que cela puisse servir utile au Burkina Faso.
Omega Sport.
Actualité sportive, le Tour cycliste international du Bénin débute le 2 mai prochain. Le Burkina Faso y sera avec une équipe de 5 coureurs. Les étalons quittent Ouagadougou ce jeudi pour Cotonou après une vingtaine de jours de préparation. La dernière séance s'est déroulée ce mercredi dans une belle atmosphère. Ce sont des étalons déterminés et motivés qui disent être prêts à faire une participation honorable dans un tour désormais inscrit au calendrier UCI. Union cycliste internationale. Plus de détails avec Bernabé Cabré.
Une dernière séance de mise en jambe avant le Bénin. Ce mercredi matin, Paul Domoy et ses camarades sont sur la voie de contournement route Zinyaré. Derrière les coureurs, l'entraîneur national Karim Yamouego. Les étalons savent qu'ils sont très attendus au Bénin, eux qui ont gagné 5 des 6 dernières éditions. 3 semaines de préparation, pas suffisantes, mais qui devraient, de l'avis de l'entraîneur Karim Yamouego, permettre au Burkina de se faire respecter.
L'objectif, c'est de gagner le tour. Ça, c'est toute équipe qui parle pour un tour qui s'est bien préparé, qui est sûr de lui, cherche à remporter le tour. Tout va commencer à partir de la première étape. À défaut de la victoire du tour, il y a encore d'autres maillots, comme le maillot vert, le point chaud et les victoires d'étape.
Le Tour cycliste du Bénin est devenu depuis 2022 une compétition très prisée depuis qu'il a été inscrit comme compétition UCI. Cette année, ce sont 14 pays qui y prendront part. Des équipes africaines comme la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Maroc, mais aussi des écuries européennes comme la France ou encore les Pays-Bas. Paul Domon.
Il faudra être chanceux, très chanceux. Il faudra que toutes les étoiles soient bien alignées, qu'on n'ait pas de soucis techniques, pas de chute et qu'on ne se fasse pas piéger pendant la course. Voilà, parce que cette année, on part à 5 coureurs. Donc forcément, contrôler une course à 5, c'est compliqué. Donc l'idéal pour nous, ce serait d'être placé dans les meilleures positions jusqu'à peut-être la dernière ou l'avant-dernière étape.
Le Burkina ne doit pas faire de la figuration au Bénin. Il doit être parmi les meilleurs et ses objectifs, le président de la fédération a tenu à les rappeler aux coureurs. Il tenait à les encourager avant leur départ pour le Bénin. Et c'est ce jeudi que les coureurs quittent Ouagadougou pour Cotonou. Ils vont poursuivre la préparation en attendant la première étape qui va se disputer mardi entre Parakou et Djougou sur une distance de 132,53 km.
La revue de presse.
La tuerie de Karma fait toujours les choux gras des quotidiens du jour. Aujourd'hui au Faso, se demande qui sont les corps habillés indexés par les ressortissants et les rescapés. Pour l'Express du Faso, le président de la transition n'aurait certainement pas voulu de cette affaire de Karma qui le prend pratiquement à la gorge. Lui dont le ministre porte-parole du gouvernement faisait comprendre très récemment dans un communiqué que le Burkina Faso est très regardant sur le respect des droits de l'homme dans cette lutte contre le terrorisme. À l'international, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a fini par obtenir un cessez-le-feu de 72 heures pour permettre au couloir humanitaire de se déployer pour exfiltrer des étrangers et civils soudanais de la fournaise mortelle des canons. La revue de presse est avec Valérie Guéry.
L'affaire de la tuerie de Karma intéresse certains éditorialistes du jour. Tragédie de Karma, qui sont les corps habillés, indexés par les ressortissants et les rescapés, s'interroge aujourd'hui au Faso. Et à la une, l'Express du Faso révèle que ces tueries à Karma mettent le pouvoir de la transition à l'épreuve. Pour le journal Bobolais, cette affaire de Karma, qui ressemble à bien d'autres Solange, Seitenga, Noua, qui ont eu lieu et qui sont restées jusqu'à présent sans suite, comme si on le mettait au défi, l'enquête ouverte doit nécessairement élucider les circonstances dans lesquelles ces tueries ont eu lieu et qui a donné l'ordre d'aller attaquer le village, commente l'Express du Faso. Qui sont donc les assaillants de ce 20 avril qui ont procédé à ces tueries telles que relatées dans cette lettre? D'où viennent-ils? Pourquoi avoir ciblé le village de Karma? Qu'ont-ils fait pour susciter une telle fureur mortifère? De quoi les accuse-t-on et pourquoi eux? Sont entre autres les questions que se pose notre confrère d'aujourd'hui au Faso. Pour ce quotidien burkinabé, en attendant que la lumière soit faite avec l'enquête ouverte par le procureur du Faso, lequel a parlé d'une soixantaine de victimes, l'urgence est d'inhumer avec dignité les tués et de soigner les blessés. Et le journal Le Quotidien vient de revenir sur la sortie malheureuse de Mahamadou Tarka, quand un général nigérien se trompe de combat et d'adversaire, titre ce canard qui pense que chaque pays est libre de choisir ses partenaires. Malheureusement, c'est ce que le général Mahamadou Tarka n'a pas compris. D'ailleurs, il ne peut donc pas comprendre puisque ses réflexions ne vont pas plus loin que le bout de son nez, écrit notre éditorialiste. À l'international, le Soudan, toujours dans la gadoue fangeuse, titre aujourd'hui au Faso qui précise que le secrétaire d'État américain a fini par obtenir un cessez-le-feu de 112 heures pour permettre aux couloirs humanitaires de se déployer pour exfiltrer étrangers et civils soudanais de la fournaise mortelle des canons. En effet, qu'en est-il d'un arrêt permanent des combats? En un mot commençant, après cette trêve, on fait quoi? S'interroge notre confrère et l'observateur Palga de renchérir. À ce rythme, la seule question qui vaille la peine d'être posée, c'est de savoir qui, entre Al-Buran et Mdeti, viendra finalement à bout de l'autre.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Semaine nationale de la culture, tout est mis en œuvre pour une semaine culturelle époustouflante à Bobo-Dioulasso, une cérémonie sobre mais pleine de sens, nous promet le comité d'organisation de la 20e édition de la Semaine nationale de la culture. Fidèle Tamini en est le président, il est l'invité de ce journal et est interrogé par Ndiaye Ouedraogo.
Fidèle Tamini, la cérémonie d'ouverture de la Semaine nationale de la culture Bobo 2023, c'est samedi prochain au stade Aboubakar Sangoulé, Lamizana. Est-ce qu'on peut savoir déjà ce que vous avez préparé pour le public?
Alors, un spectacle riche en couleurs, préparé par M. Demain. Une cérémonie, j'allais dire, sobre, mais pleine de sens. Pleine de sens par la qualité des personnes qui vont intervenir. Vous savez que la cérémonie est placée sous le très haut patronage des chefs de l'État. Vous savez également que nous avons un pays invité d'honneur qui est la Guinée, qui nous honore par la présence d'une forte délégation. Et nous avons également des artistes de renom venant donc de la Guinée. Nous avons les Bembaya Jazz, nous avons le Volta Jazz, nous avons également une star qui nous vient du Mali, à savoir Siriki Diabaté, et bien d'autres artistes au plan national, Flobi, Amiti Meria. Bon, bref, c'est une cérémonie qui promet d'être riche en couleurs.
Quelles sont les activités phares de cette 20e édition?
Alors, les activités phares, c'est celles que nous connaissons d'habitude. Hein. Voilà, nous avons la foire artisanale et commerciale, le village des communautés, un village qui accueille plusieurs communautés, qui vont donc présenter ce qu'ils ont de mieux, qui vont rivaliser sur les questions donc, de parenté à plaisanterie. Nous avons le GPDAL, qui est l'espace dédié à la Coupe d'adultes, compétition de jeunes. Je parlais tantôt de la foire artisanale, qui est l'espace dédié aux affaires. Voilà, pour cette édition, nous sommes passés de 250 à 500. Bon, mais j'avoue que ça n'a pas suffi pour dire que les populations ont un réel engouement pour cet événement.
La danse traditionnelle occupe une place importante à la Semaine nationale de la culture. Combien de troupes sont attendues si on sait qu'il y a des parties qui sont en difficulté?
Alors, à ce jour, nous sommes en train de préparer l'arrivée donc des troupes. Cela devrait donc être effectif à partir de demain. Alors, les troupes annoncé devrait être là et il faut dire que nous avons en gros 1300 artistes qui sont attendus ici à Bobo-Dioulasso. C'est vrai que les nombreux reports ont dû occasionner la désintégration de certains groupes, mais le règlement intérieur a été revu pour permettre donc que certains groupes soient reconstitués et pour permettre qu'on puisse aller vers cette édition de régularisation, parce que vous savez que c'est une édition qui devait avoir lieu depuis 2020, mais qui pour des raisons sécuritaires ou des raisons sanitaires a été reportée. Cette année, ben, je dis encore gloire à Dieu parce que cela est en train d'être une réalité.
Qu'avez-vous prévu pour la sécurité des festivaliers?
C'est une grande activité, une activité qui va réunir près de 600 000 festivaliers. Ce n'est pas rien, c'est une activité qui, à l'image des autres, voilà, que le pays a déjà connu, est bien encadrée par des forces de défense et de sécurité bien averties. Et tout ce que nous demandons aujourd'hui aux festivaliers et aux artistes, j'allais dire, c'est le respect des mesures sécuritaires. Respecter ce que nos forces de défense et de sécurité vont prescrire et vous verrez que tout pourrait bien se passer.
Pour finir, promettez-vous une belle leur semaine culturelle à Bobo Dioulasso?
Depuis quelques mois, le comité d'organisation est à pied d'œuvre. Nous avons plusieurs commissions qui ont été constituées à cet effet. Le comité s'est véritablement engagé sur les chantiers qui lui étaient donc confiés. Et à quelques jours, le bilan que nous avons fait est un bilan très satisfaisant. En ce sens que toutes les commissions aujourd'hui sont fin prêts pour accueillir donc cette 20e édition donc de la Semaine nationale de la culture. Alors, si il dit fin prêt, il nous répétait juste quelques questions résiduelles, des questions en lien avec l'accueil des festivaliers qui devaient intervenir dans les prochaines 48 heures. Et voilà, et puis peut-être le lancement, la cérémonie d'ouverture et voilà tout ce qui nous reste comme petite activité. Si l'on peut dire aujourd'hui que nous sommes fin prêts, malgré le contexte sécuritaire, qui semble être difficile, mais qui a atteint un niveau donc de stabilité et l'espoir est permis aujourd'hui. Et nous sommes de ceux-là qui pensent que la culture aujourd'hui peut être un vecteur donc de réconciliation des Burkinabés, peut être un vecteur donc de paix, peut être un vecteur donc essentiel voilà pour la reconquête de notre pays.
Un dernier mot.
C'est rendre hommage à tous ceux qui ont permis, qui ont autorisé, j'allais dire, la tenue de cette édition qui était tant attendue par les populations burkinabées et qui va permettre donc de redonner du baume au cœur donc, de tous ces Burkinabés qui, depuis un certain temps, avaient commencé à perdre espoir. La Semaine nationale de la culture, c'est pour la ville de Bobo Dioulasso. La Semaine nationale de la culture, c'est pour toute la population du Burkina Faso. Alors, venez, nous allons célébrer ensemble notre culture et la culture également des autres communautés.
Fidèle Tamini, merci.
Et c'est la fin de ce journal mis en onde par Adama Kounaté à la présentation. Je suis Abdoul Kader Kounaté. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.